Fatima Kerouche est française. Son père, algérien de Kabylie, est arrivé en France avec la vague d'immigration d'après-guerre. Sa femme l'a rejoint ensuite. Avec Fatima Kerouche, nous allons parler d'intégration, de son modèle familial, avec des parents qui ne lisaient ni n'écrivaient le français, mais qui le parlaient très bien après avoir suivi des cours du soir. Fatima nous parlera de ses cours d'arabe deux fois par semaine, voulus par son père, alors que la langue de ses parents était le kabyle. Elle évoquera l'école, la langue française comme facteur d'intégration. Pour elle, immigration, intégration, fourmille de paradoxes. Bonjour Fatima Kerouche, vous êtes donc une femme vivant en France, citoyenne française, née en France, mais de parents algériens. Et avec vous, eh bien, on va parler de ce que pourrait être l'intégration selon vous et comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu ce rapport peut-être entre la culture algérienne et la culture française. Alors on va peut-être parler d'abord de vos parents et puis de votre enfance, comment ça se passait à la maison.
Alors effectivement, je suis née en France il y a quelques années en région parisienne. Et je suis ici à Montpellier depuis 3 ans. Mon père est arrivé en France en 1954. Il avait tout juste 18 ans. Il est venu pour travailler, comme beaucoup d'hommes à cette époque. Et puis ma mère est venue plus tard, en 63. Elle s'est mariée avec mon père. Elle était toute jeune. Donc mon père l'a emmenée en France. Et l'idée de base, c'était de venir en France, de travailler, de ramener de l'argent, avec toute cette idée de retourner ensuite au pays.
Pourquoi ça ne s'est pas fait, ce projet de retourner au pays ?
Je pense que la construction mentale de beaucoup de travailleurs immigrés, c'était d'arriver en France, de ramasser de l'argent, et ensuite de retourner au pays. Et je crois qu'ensuite, c'est les circonstances de la vie qui font que le projet de vie change, même s'il reste toujours très présent dans le fond du cœur. Parce que je pense que pour mon père, ça a toujours été son leitmotiv et son désir de retour au pays. C'est à la fois une construction de vie, une construction de société, une construction personnelle très intime de vouloir retourner au pays. Ça s'inscrit aussi dans le fait que les gouvernements ont mis ces processus en place de retour au pays. Et ça s'est manifesté de plusieurs façons, parce que l'immigration qui est arrivée, bon, j'en sais rien, je ne vais pas faire l'histoire de l'immigration, je ne la connais pas bien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que toute cette génération d'hommes qui est arrivée dans les années 50-60, l'idée, c'était de travailler, de ramener de l'argent et de retourner au pays.
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, experts et hommes politiques sont persuadés une nouvelle fois que l'appel à l'immigration est indispensable pour la reconstruction. Ils créent donc l'Office national de l'immigration. Les Algériens arrivent les premiers. Majoritairement originaires de Kabylie, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de va-et-vient. Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décident alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux.
L'État français aussi a fait venir toutes ces personnes pour construire le pays, puisque c'était les Trente Glorieuses, l'après-guerre, etc. Après, j'imagine que quand on s'installe dans une société, les choses se mettent en place, on se marie. Tout bêtement, enfin. Et je pense qu'on se marie, on s'installe. Et il y a un double paradoxe. À la fois, on s'installe dans le pays, et en même temps, on pense qu'on va repartir. Ce que je pense en vous le disant, c'est l'idée qui me vient en vous le disant, c'est qu'il y a une vraie schizophrénie, j'ai presque envie de dire. C'est qu'il y a tout un processus de fait qui contribue à vous faire installer dans un pays. Et psychologiquement et mentalement, vous êtes dans une démarche de retour. Et je crois que, enfin, en y pensant là, tel que je vous le dis, c'est à la fois assez incroyable. Et je pense que c'est ça qui construit tout le rapport à la société, tout le rapport à soi, et puis le rapport à ses propres enfants.
يمزل وسكر يسكري هوا هوا الملوك صغات ذلولي هوا هوا وين يديعو صان ورزيد هوا هوا ذكا يلا وحلي هوا 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 هوايا الرزوة دي من جديد هوا هوا وين فوات.
Moi, je suis née en 1964. Je suis allée à l'école tout à fait normalement. Mais il y a une chose très particulière dont je me souviens dans mon enfance, que j'ai vécue, c'est que quand j'avais 8, 9, 10 ans, j'allais à l'école arabe. Et quand je vous dis ça, c'est parce que toujours dans cette politique à la fois, alors c'était l'époque de Giscard et de Stoléru, qui mettaient en place ce processus pour que tout le monde retourne au pays. D'ailleurs, avec des films très connus qui sont sortis à ce moment-là, « Prends 10 000 balles et casse-toi ». Bon, c'était ce programme politique de retour au pays. Donc moi, mon père, avec ma sœur, il nous emmenait à l'école arabe. Mais en même temps, se poursuit ce processus d'installation. Puisqu'on les enfants, on va à l'école, on... En tout cas, voilà, je mets le point sur ça, sur ce paradoxe d'emblée. C'est-à-dire changer de pays pour venir y travailler et qu'en parallèle, on s'y installe, on se marie, on fait des enfants. Là, on est dans un total paradoxe.
Vous dites que vous êtes allé à l'école arabe. Qu'est-ce que c'est précisément?
Alors, c'est quelque chose auquel je repense récemment. Il y a deux choses. C'était qu'il y avait, il y avait à la fois donc, la politique giscardienne qui, à l'époque, mettait en place toute cette politique de retour de l'immigration. Et puis, le gouvernement algérien aussi qui contribue à ce processus en disant il faut que les enfants apprennent l'arabe. Sauf que la langue arabe s'inscrit aussi à la suite de l'indépendance, de la décolonisation, où on impose une langue d'État. Les immigrés étant considérés comme algériens, la présence du pouvoir algérien est très puissante au travers des consulats. Et donc, apprendre l'arabe aux enfants algériens, même nés en France, parce qu'à ce moment-là, en étant enfant né en France, on était des enfants algériens, hein, puisqu'après la législation a changé. Alors, moi, l'école arabe, c'est quelque chose de très particulier. Mon premier souvenir d'aller à l'école arabe, c'était un souvenir de larmes. J'habitais une longue rue, et les premiers cours d'arabe que j'ai eus, c'était à l'église de Charenton, plus précisément dans une partie du presbytère. Et j'ai un souvenir, ça c'est un vrai souvenir d'enfance, ma mère m'a tirée, mais je devais avoir 6-7 ans, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je ne voulais pas y aller. Et elle m'a tirée tout le long, et j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Et je suis arrivée dans une partie de l'église avec des vitraux, et donc j'étais là, et je savais que c'était mon premier cours d'arabe. Ensuite, bon, comme j'étais trop jeune, je pense que le prof il nous a laissé dessiner, bon... Donc ça, c'est très anecdotique, mais c'est assez révélateur. Et puis, vers 12 ans, donc au moment où j'étais au CM2 avec ma sœur, tous les mercredis, tous les samedis, nous allions à l'école arabe. Mon père nous emmenait, il y tenait. Nous, ça nous paraissait ni bien, ni pas bien. En tout cas, moi, j'ai appris à lire et à écrire l'arabe. J'ai même eu même le premier prix, d'ailleurs. Ce que ça m'a poussé à faire, ensuite, c'est à vouloir poursuivre cet apprentissage. Donc, j'ai fait un collège entre la 6e et la 5e. J'étais au collège à Charenton. Bon, les collèges de banlieue, proche banlieue de Paris. Hein, voilà. Je suis entrée en 4e. J'ai souhaité apprendre l'arabe en 2e langue. Et à partir de là, je suis partie au lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement, puisque j'étais une très bonne élève. Et donc, j'ai appris l'arabe jusqu'au baccalauréat. Sauf que, entre-temps, j'ai compris que j'étais berbère. Et que l'arabe, c'était encore une autre dimension de l'identité. Alors maintenant, je m'en sers parce que quand je vais quelque part dans un pays arabe ou en Égypte, je sais lire et l'écrire et quelque part, ça renforce ma culture générale. Mais à un moment donné, j'ai compris, mais non, moi, quand je vais en Algérie, en Kabylie, mes grands-parents ne parlent pas arabe, parlent kabyle. Et puis, tout ce rapport de l'État algérien qui impose de vouloir apprendre l'arabe, bon, ben, moi, je me suis sentie balayée par ce système. Maintenant que je commence à écrire et à réfléchir sur des choses, je me dis que finalement, la réaction que j'ai eue en pleurant tout le long de la rue de la République pour aller à l'église, je crois que c'était une réaction très intime et très vraie et très saine, et que c'était celle-là mon vrai sentiment par rapport à cet apprentissage qui m'a été imposé, mais qu'en même temps, j'ai poursuivi parce que... Pourquoi, j'en sais rien, mais ça a conditionné pas mal de choses.
Pour que les auditeurs comprennent bien, cette école arabe, donc mercredi, samedi, c'était... en dehors de l'école laïque et publique.
Absolument, c'était organisé par le consulat.
Vos parents sont originaires de Kabylie, effectivement, c'est pas du tout la même langue. Mais vos parents, eux, qui vous faisaient apprendre l'arabe, quelle langue ils parlaient et comment on parlait dans la famille?
À cet instant où vous m'interrogez, je mesure ce paradoxe. Et je crois que c'est ça l'immigration, on est en plein paradoxe. Je pense que c'est mon père, à titre personnel, qui tenait à ce qu'on aille apprendre l'arabe. Voilà, point. Je pense que ça lui faisait plaisir, c'était un certain orgueil. Sauf que en parallèle, mon père et ma mère ne nous parlaient qu'en français. Que mon père et ma mère ne souhaitaient que l'on s'exprime dans un langage très choisi. Mon père faisait très attention à la façon dont nous nous exprimions. Ma mère, quand elle est arrivée en France, il a voulu qu'elle apprenne tout de suite le français, qu'elle aille travailler. Nous, à l'école, il fallait bien travailler à l'école, c'était très important. Mon père faisait des cours du soir après le travail, donc c'est très, très important. Et donc, on était dans cette démarche d'être... Et là, on peut appeler ça de l'intégration, c'est apprendre le français, bien le parler, et pas n'importe comment, ne pas dire de gros mots, être attentif au langage. Ma mère est arrivée, elle avait 15 ans, elle s'exprime très très bien en français, mon père également. Et je vous dis, mes deux parents ont suivi des cours du soir, après le travail, et ils nous ont toujours poussés à bien travailler à l'école. C'était très important. Et curieusement, le kabyle, je l'ai plutôt appris après, par le biais des radios, et parce que nous allions en Algérie tous les ans. Donc j'ai intégré cette dimension de langue kabyle. Je ne le parle pas très très bien, mais bon, je me débrouille pas mal et je suis capable de tenir des conversations. Donc voilà, on est allé à l'école arabe le samedi et le mercredi. Bon, ça a duré quelques années, hein. Maintenant ça n'a pas pris un temps colossal. En tout cas, moi, ça m'a permis après de continuer, de faire des textes littéraires et d'apprendre cette culture-là. Et en parallèle... dans les années 80, il y a eu toute l'émergence des radios libres, notamment Beurre FM. Et là, à partir de là, il y avait la radio Beurre, notamment, qui s'appelle maintenant Beurre FM et qui existe et qui est très importante. À partir de là, moi, j'ai compris quelle était ma culture. J'étais au lycée Voltaire, dans un lycée où c'est un lycée militant, différent des collèges où bon, bah, vous allez à l'école, vous sortez, vous faites votre devoir. Là, je suis rentrée dans ce lycée Voltaire à cause de l'arabe et grâce à l'arabe. Ça a été mon prétexte, puisque changer de lycée, il faut un prétexte pour changer de lycée, pour aller dans un lycée parisien. Finalement, cette langue arabe, elle m'a servi d'aller dans un grand lycée parisien. En plus, j'étais une excellente élève. Mais dans ce lycée, j'ai découvert le militantisme, j'ai découvert les causes palestiniennes, la cause des juifs, des israéliens. J'ai découvert le militantisme, j'ai découvert l'esprit critique, j'ai découvert que j'étais berbère, j'ai découvert tout ça. Donc la langue arabe a conduit là, vous voyez ce que je veux dire. Et en parallèle, à la maison, il fallait bien travailler. J'ai intégré cette notion de rage de vouloir m'en sortir. Mon père était chauffeur-livreur, ma mère travaillait dans les écoles. Mais j'avais cette rage de vaincre, cette rage de m'en sortir socialement. Mes parents ne savaient pas lire et écrire. Les cours du soir, ils m'ont montré ce modèle de... L'école, c'est mythique, l'école, c'est symbolique. À la limite, c'est un pouvoir plus puissant que l'argent. Voilà. Et moi, j'arrive dans ce lycée et j'ai un choc, dans le bon sens du terme, où je découvre le militantisme, où je découvre la politique, je découvre cette notion d'intégration. Je vis aussi cette schizophrénie, entre guillemets, puisque là, je suis une adolescente et je découvre tout ça.
La bonne maîtrise de la langue, c'est vraiment important pour l'intégration.
Quelqu'un qui apprend le français, comme bon, beaucoup de gens, mais qui ont une langue pas maîtrisée, à la limite, on peut le pardonner pour les anciens, mais je pense que fondamentalement, pour les jeunes, c'est important de parler une langue choisie. Alors, après, c'est une vocation personnelle, parce que j'aime les textes, j'aime les mots. Donc, ce que je vais dire, ça n'appartient qu'à moi. En tout état de cause, ce que je sais, c'est qu'à la maison... Curieusement, j'ai pas appris à parler le kabyle comme je voudrais le parler, même si je connais beaucoup de vocabulaire et je suis capable de tenir des conversations. Mais je crois que pour mon père, c'était important d'aller à l'école arabe, bon, soit, même si, bon, c'est pas non plus, bon, là on en a beaucoup parlé, mais c'est pas non plus l'élément fondamental. Finalement, en discutant avec vous, je m'aperçois que quelque part ça a conduit à un cheminement assez intéressant. Mais c'était de bien s'exprimer à la maison, de bien faire ses devoirs, de bien travailler à l'école, parce que le secret, il est là. Quand on vient d'un pays qu'on n'a pas grand-chose, le vrai pouvoir, c'est le savoir. Le vrai pouvoir, c'est l'école, c'est bien s'exprimer. En tout cas, être capable en société de se présenter n'importe où, devant n'importe qui, pour un travail. Et je crois que... Alors évidemment, bon, j'ai perdu mon père il y a 10 ans. C'est maintenant que je comprends l'impact de ce qu'il a laissé. Il a laissé... il l'a donné à ma sœur et à moi, puisque bon, on est plus âgés, je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Mais à ma sœur et à moi, qui sommes beaucoup plus âgés que les autres, il a laissé cette volonté d'ascension sociale, cette volonté de bien s'exprimer, cette volonté de s'intéresser à l'écrit, même si lui-même ne savait pas écrire. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à l'écrit, moi aussi, j'ai quelque chose, une histoire très particulière, puisque à la maison, il n'y avait pas spécialement de livres, mais j'ai eu l'amour des livres. Alors pourquoi, j'en sais rien, c'est toujours une question que je me pose. Et en tout cas, je suis toujours allée à la bibliothèque, et ça, ça a toujours été encouragé dans ma famille.
L'idée de votre père, là, qui vous pousse à bien vous exprimer, à bien maîtriser la langue française, est-ce que c'est pas cette idée du, finalement, on a fait un sacrifice, nous, en partant de Kabylie, pour venir en France, il faut absolument que nos enfants, effectivement, accèdent à l'ascension sociale. Il faut vraiment que notre départ ait une justification et qu'on lègue ça à nos enfants, qu'ils soient partie prenante de la société française.
Quand vous le dites, ça résonne assez vrai. Oui, il y a de ça. L'immigration, elle se joue sur deux choses, d'une manière générale. Je n'ai pas de vérité, hein, mais c'est un peu par rapport à mon parcours, à ce que j'ai vécu. Je vous parle de ce que je ressens. Il y a une chose assez particulière par rapport à ceux qui ont quitté l'Algérie, qui quittent l'Algérie quand on revient en France. Et c'est un peu, c'est un petit peu un débat de réflexion personnelle récent. Quand on revient, il faut apporter des tas de cadeaux, il faut apporter des tas de choses, il faut apporter des tas d'objets de France et tout. Bon, pendant des années. Bon, moi j'y suis retournée il y a pas très longtemps, mais bon, j'ai apporté les cadeaux que j'avais envie, mais enfin j'ai pas été dans l'excès. Donc j'imagine que les gens connaissent ça, enfin les personnes qui m'entendront connaissent ce phénomène de devoir, on est en France, on a quitté le pays, et donc on revient avec des tas de cadeaux, des tas de choses. Alors c'est comme si à la fois, en quittant le pays, c'est une forme de trahison, et en quittant le pays, vous avez quitté le pays, donc vous nous êtes redevables. Et celui qui a quitté le pays est d'autant plus coupable. Ça, c'est un sentiment. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un l'exprimer quelque part, mais finalement, après mon analyse, je me dis, c'est ça. Il y a comme une forme de culpabilité et d'un aspect de redevable. Et que les gens qui sont en Algérie et qui vous attendent au tournant vous disent, mais qu'est-ce que vous avez fait en France ? Et si vous n'avez pas bâti de maison, mais qu'au moins vos enfants apportent quelque chose ? Et donc, votre question me touche beaucoup parce que c'est ça. Il y a à la fois la fierté de qu'on ait des enfants qui s'en sortent, et je pense que ça, c'est le souhait légitime de tous les pères, de toutes les mères dans le monde. Mais je pense que ça prend une force supplémentaire. Ça prend une force supplémentaire parce qu'on vous attend au tournant, et puis pour d'autres raisons que je ne suis pas capable d'analyser, mais que moi, j'ai ressenti. C'est-à-dire que pour moi, l'école, c'était plus important que les autres. Donc, il y a à la fois cet aspect où on vous attend au tournant. Ah, vous partez en France, vous nous quittez, qu'est-ce que vous nous rapportez ? Alors, vous nous rapportez des biens, vous nous rapportez des cadeaux, mais il faut à la fois, vous nous quittez, mais ce n'est pas pour aller faire les fanfarons. Donc, il y a aussi cette notion de fierté. Mais je pense qu'aussi, elle est inhérente à tout le monde. Je veux dire, même ici, bon, si un enfant, des parents envoient leurs enfants à New York pour faire des études, bon, c'est pas pour qu'ils reviennent. Donc ça, je veux dire, il y a une légitimation, il y a quelque chose d'universel. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai senti la force de ça, d'aller à l'école et d'arriver au bac et d'avoir cette fierté d'aller au-delà. Et en tout cas... Oui, effectivement. Alors, comment ça s'explique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait cette force de s'en sortir par l'école. C'est le moyen. En tout cas, c'était le moyen fondamental. حسيسي وما غرطيموش وهذا الأخبار شدها غامض اللي نفسنو الفود شناوي نتحسيسي وما غرطيموش وهذا الأخبار يا سيف يا سيف من هك خرب النماني
L'école de la République comme facteur d'intégration, voilà une des conclusions de cette première émission avec Fatima Kerrouche, née en France de parents kabyles. Dans la seconde partie de l'émission, nous poursuivrons ces réflexions sur l'intégration et nous parlerons davantage de la culture de Fatima. Des musiques, vous avez pu écouter Idir et Taïfa.
من هو خرب النمان.